France Culture, il est 12h30. Je vous retrouve dans une vingtaine de minutes avec notre invité, l'historien Achille Mbembe. Pour l'heure, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Un demi-million d'emplois détruits en France au premier trimestre, selon les chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Jamais l'économie ne s'était retrouvée dans une telle situation depuis 2015. Après que le gouvernement eut échoué en début de semaine à calmer la polémique qui enfle sur les violences policières, le ministre de l'Intérieur reçoit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain tous les syndicats. Aux États-Unis, sous la pression des associations qui luttent contre les violences policières et le racisme, Amazon a annoncé hier aux forces de l'ordre l'interdiction temporaire d'utiliser sa technologie de reconnaissance faciale. Enfin, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction, d'ici une vingtaine de minutes aujourd'hui, Stanislas Guérini, chef du parti présidentiel LREM. Après le sombre horizon tracé hier par l'OCDE, tablant sur une récession brutale en France, avec la contraction du PIB la plus importante au monde, voilà que les chiffres publiés ce matin par l'INSEE viennent, eux, dresser la liste des premières victimes. Un demi-million d'emplois détruits au premier trimestre sur fond de crise sanitaire, ou quand l'emploi salarié revient à son plus bas niveau depuis 2017. Alors dès hier, précisant vivre au rythme des annonces de faillite et de licenciement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait lui-même déjà évoqué un choc considérable, et de fait cette nouvelle estimation est encore plus mauvaise que celle provisoire publiée il y a tout juste un mois. Alors pourquoi cette baisse, Hakim Kasmi, est due en partie au recul historique de l'emploi intérimaire?
Oui Thomas, moins 40% dans l'intérim, un record historique, car même pendant la grande crise financière de 2008, on n'avait pas atteint un tel niveau de recul en ce qui concerne l'emploi intérimaire, car à l'époque on n'était qu'à 13%. Il faut dire que ce type d'emploi est celui qui est le plus touché en cas de crise, du fait de sa flexibilité, mais tous les secteurs sont touchés, à commencer par le bâtiment, moins 60%, l'industrie, moins 40,7%, et encore les services, moins 31%. Les services qui sont entre guillemets moins touché du fait que le télétravail est beaucoup plus adaptable pour les services que pour l'industrie, notamment l'automobile, où les opérateurs doivent être sur les chaînes d'assemblage, ou encore le bâtiment, où les ouvriers doivent être sur les chantiers pour travailler. Le bâtiment qui se dit d'ailleurs très inquiet, car les annonces du gouvernement en ce qui concerne le projet de loi de finances, n'ont pas rassuré, et 2 millions d'emplois pourraient être menacés selon la Fédération française du bâtiment. En ce qui concerne l'hôtellerie, restauration cette fois, qui était très durement touchée, puisque les restaurants étaient fermés pendant le confinement, le recul est de 4,4%, et cette fois en ce qui concerne l'emploi à la personne, les femmes de ménage et les nounous, là le recul est de 2,2%. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les mesures de soutien, comme le chômage partiel, qui a permis de maintenir artificiellement l'emploi pendant le confinement, sont amenées à être réduites dans les prochaines semaines. Selon le journal Les Échos, Emmanuel Macron devrait rencontrer les syndicats la semaine prochaine, afin de leur dire que ces mesures ont baissé drastiquement, puisque les salaires ne seraient plus payés qu'à hauteur de 60%, contre 84% actuellement, ce qui est de mauvais augure et prévoit de nombreux licenciements dès la rentrée de septembre.
Écœurement, sentiment d'abandon, mais aussi fébrilité au sommet de l'État depuis les déclarations lundi dernier du ministre de l'Intérieur prônant la tolérance zéro contre le racisme dans la police. Tous les syndicats tirent à présent la sonnette d'alarme et dénoncent une stigmatisation systématique des forces de l'ordre. Autant dire qu'en recevant tour à tour gardien de la paix, officier et commissaire aujourd'hui et demain, Christophe Castaner n'aura sans doute pas trop de ces deux journées pour tenter de calmer la colère. Reste Stéphane Robert à savoir comment, étant entendu que toutes les tentatives de déminage initiées par le gouvernement depuis le début de la semaine ont pour l'instant échoué.
Tout est parti du discours lundi de Christophe Castaner qui a tenté de calmer la vindicte contre les violences policières et de répondre aux accusations de racisme au sein de la police. Le ministre de l'Intérieur a redit que selon lui, la police n'est pas raciste, mais qu'il peut effectivement y avoir au sein de la police des comportements racistes et que ce n'est pas acceptable. Que face à ces comportements, il entend appliquer une tolérance zéro. Ces mots ont, semble-t-il, particulièrement heurté les policiers. Il a également annoncé que serait désormais proscrite la technique dite de l'étranglement. C'est faire preuve d'une méconnaissance totale de la manière dont se déroulent les interventions sur le terrain, rétorquent depuis trois jours les syndicats. Et puis il a expliqué qu'il y aura désormais une sanction en cas de soupçon avéré. Ce qui pose un vrai problème de sémantique. Soit il y a soupçon, auquel cas il convient de faire la preuve de la suspicion avant de sanctionner, soit c'est avéré et on n'est plus dans le domaine de la suspicion mais de la loi qui punit ces comportements. Alors, au-delà de cet oxymore incompréhensible dans la bouche du ministre, c'est sans doute le terme « soupçon » qui passe le plus mal chez les policiers. Christophe Castaner donne le sentiment de se défier de ses troupes, de les soupçonner de ne pas être au carré avec les lois républicaines qu'ils sont censés faire respecter. Et on a sans doute là un point de rupture majeur entre le ministre et les forces de l'ordre. Tout ça s'inscrit dans un contexte de malaise qui semble durable et profond. Les policiers sont très sollicités depuis les attentats terroristes de 2015. Ils ont fait face à la crise des Gilets jaunes, aux manifestations contre la réforme des retraites. Et puis ça vient s'ajouter au fait que Christophe Castaner est décrié depuis sa nomination. Sa sortie en boîte de nuit en mars 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, a installé l'image d'un ministre fêtard et noctambule, bien loin du sérieux requis pour occuper un tel poste. On a donc là tous les ingrédients d'une grave crise de confiance, susceptible de fragiliser la capacité de l'État à assurer une de ses missions régaliennes, l'ordre et la sécurité. C'est dire l'importance des rencontres qui se déroulent aujourd'hui et demain avec les syndicats de policiers.
Et c'est donc en plein débat sur les violences policières, mais aussi au moment même où le gouvernement promet à présent la tolérance zéro contre le racisme au sein des forces de l'ordre que ressurgit aujourd'hui une nouvelle affaire, l'interpellation le 26 mai dernier dans un parc de Vitry-sur-Seine de 4 collégiens âgés de 14 à 15 ans, dont 2 sont d'origine maghrébine et un troisième est noir. 3 d'entre eux avaient été placés en garde à vue sans qu'aucune charge ne soit finalement retenue contre eux et après que leur famille eurent porté plainte pour détention arbitraire et injure raciste. Le parquet de Créteil a annoncé hier que l'IGPN, la police des polices, allait être saisie. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage politique et ce en à peine 48 heures. Mardi dernier, le député Les Républicains Aurélien Pradier s'indignait de voir sa proposition de loi contre les violences conjugales détricotée par l'exécutif. Son texte prévoyait de réduire à 6 jours le délai autorisé à un juge pour statuer sur une demande d'ordonnance de protection. Or, c'est notamment ce qui permet à un juge d'éloigner le conjoint violent pour protéger la victime. Sauf que, selon un décret publié récemment, cette demande deviendrait caduque dès lors que la victime n'informerait pas son conjoint de la procédure à son encontre dans un délai de 24 heures. Trop court, s'alarment les associations qui trouvent anormal de faire porter cette responsabilité à la victime via un huissier. Et c'est ainsi que face aux critiques, eh bien, l'exécutif a donc annoncé hier qu'un nouveau projet de décret allait être soumis à la fin du mois. Je vous propose d'écouter François Molins, le procureur général auprès de la Cour de cassation, auditionné ce matin au Sénat sur la question du traitement judiciaire des violences conjugales, s'est justement exprimé sur cette polémique.
Moi, j'ai toujours dit d'abord que 6 jours, c'était très court. C'est encore plus court quand au milieu de ces 6 jours, vous avez un week-end avec un samedi et un dimanche. Je pense que la loi ne doit pas avoir des vertus incantatoires, mais qu'elle doit poser des règles et que ces règles normatives doivent être effectives et s'appliquer. Une loi qui se borne à afficher des bonnes intentions, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose, sauf à se contenter d'une vertu d'affichage. Je pense que la brièveté du délai se retourne finalement aussi bien donc contre la victime, mais aussi contre le mis en cause, qui a quand même aussi des droits, faut pas l'oublier. Je pense moi personnellement que ça n'est pas aux services de police et de gendarmerie à aller signifier ce genre de choses. Je pense que les services de police ont de plus en plus de choses à faire en allant dans un domaine civil et que ça n'est pas à un policier ou à un gendarme à faire le travail d'un huissier ou d'un commissaire de justice et à aller signifier une décision civile. Ces services se battent depuis des années et des années contre ce qu'ils appellent les charges indues. Je pense personnellement que ça n'est pas l'office d'un policier ou d'un gendarme.
Voilà, François Molins, procureur général auprès de la Cour de cassation, des propos recueillis par Margot Delpierre. C'était il y a une semaine, après des décennies de fuite, l'Algérien Abdelmalek Droukdel, chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, était tué par les forces spéciales françaises dans les confins du Sahar. Alors sa mort à présent va-t-elle changer quoi que ce soit dans la bande sahélo-saharienne? Seule certitude pour l'instant, sa disparition marque la fin du moins provisoire du règne des Algériens au sein de la nébuleuse djihadiste dans la région. Et puis cette opération Nathalie Hernandez vient également rappeler combien depuis plusieurs semaines déjà les militaires français de l'opération Barkhane multiplient avec succès les coups de force contre les membres de l'État islamique au Grand Sahara.
Aujourd'hui, c'est nous qui sommes désormais imprévisibles et non plus l'ennemi, assure un haut gradé de l'état-major des armées. Depuis le sommet de Pau, l'armée française a redimensionné ses actions, notamment en resserrant sa coordination avec les forces armées africaines du G5 Sahel et en multipliant les missions de plusieurs semaines sur le terrain. Cette stratégie semble donc être payante. L'aide des Américains a également été précieuse pour les services de renseignement. L'arrivée de l'émir algérien sur le sol malien a été repérée 2 jours avant l'intervention des forces spéciales françaises. Appuyés par 4 hélicoptères et 1 drone, une quinzaine de militaires au sol ont pris d'assaut le bivouac monté par Drugdel et ses lieutenants. Des cartes SIM, des téléphones et un ordinateur ont été saisis. Ce sont eux qui pourront dire pourquoi le dirigeant d'ACMI se rendait au Mali, lui qui quittait rarement son fief en Algérie. Une des raisons est peut-être les combats qui ont lieu depuis quelques mois entre factions djihadistes. Ces succès ne sont pas encore synonymes de victoire totale pour l'armée française qui se refuse à donner le nombre des djihadistes tués ou arrêtés. Il y en aurait 100 par mois depuis janvier. Mais la disparition de petits chefs qui semaient la terreur permet à la population de reprendre confiance. Ce sont les meilleurs indicateurs, selon le haut gradé.
La pandémie de coronavirus a franchi de nouveaux seuils sur le continent américain, devenu l'épicentre de la pandémie. En Amérique latine et aux Caraïbes, le nombre de décès a dépassé hier soir les 70 000, dont plus de la moitié au Brésil, troisième pays aujourd'hui le plus endeuillé au monde. De son côté, le Mexique a dépassé le seuil des 15 000 décès et a connu hier son nombre le plus élevé de contaminations en 24 heures, près de 5 000. Aux États-Unis, là-bas, le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a dépassé hier les 2 millions. Quant au nombre total de décès, il s'élève désormais à plus de 112 000, soit le bilan le plus élevé au monde. Pendant ce temps, et alors que l'Amérique tout entière est aujourd'hui confrontée au spectre d'un long été de troubles, Donald Trump a lui prévenu hier qu'il allait recommencer sous peu à tenir ses meetings de campagne. Il faut dire qu'à 5 mois de l'élection présidentielle et après sa gestion critiquée de l'épidémie, les derniers sondages semblent pointer une légère baisse de popularité chez l'actuel locataire de la Maison-Blanche, lequel se sera encore montré récemment prêt à tout pour galvaniser sa base autant que pour aviver les dissensions nationales. Hier, s'enfonçant un peu plus encore dans la guerre des cultures qui divise le pays, en plein débat sur la question des brutalités policières et des discriminations raciales, le président a refusé de rebaptiser les bases militaires américaines portant les noms d'officiers confédérés. Alors voilà 2 semaines maintenant qu'aux États-Unis, les mots de George Floyd avant de mourir, « I can breathe », « je ne peux pas respirer », résonnent désormais comme un slogan à travers le monde. Or, il se trouve que ce cri a de nouveau déchiré hier la une de l'actualité après que les autorités de l'État de Washington ont annoncé une nouvelle enquête sur la mort d'un homme noir lors de son arrestation. C'était le 3 mars dernier. Ce jour-là, Valérie Crovin, Manuel Ellis, 33 ans, père de 2 jeunes enfants et musicien dans l'église de sa ville, croise la route de la police avant d'être interpellé puis asphyxié.
Sur cette vidéo prise par une caméra de surveillance située en face de l'endroit où Manuel Ellis a été arrêté, on entend hurler « Je ne peux pas respirer ». Une passante tente d'intervenir mais elle est écartée par les 4 policiers qui procèdent à l'interpellation de Manuel Ellis alors qu'il tentait d'ouvrir des portières de voiture, ont-ils expliqué. Selon le porte-parole du shérif de la ville de Tacoma, située à 50 km de Seattle, les policiers auraient appelé les secours 4 minutes après l'arrestation de Manuel Ellis. Ce père de 2 enfants sera déclaré mort 40 minutes plus tard. Le rapport d'autopsie a conclu à un arrêt respiratoire lié à une contrainte physique. Les 4 policiers impliqués ont été placés en congé administratif. Mais la mère de Tacoma, elle-même afro-américaine, a demandé dès la semaine dernière qu'ils soient licenciés. Les actions des agents que nous avons vues sur cette vidéo ne font que confirmer que la mort de Manuel Ellis était un homicide. Et aujourd'hui, je le demande. Les officiers qui ont commis ce crime devraient être licenciés et poursuivis dans toute la mesure de la loi. Le gouverneur de l'État de Washington est également allé dans le sens de la mère de Tacoma, qui réclamait une enquête indépendante, en plus de celle du shérif, en raison d'un possible conflit d'intérêts.
Alors face aux demandes de plus en plus pressantes aujourd'hui aux États-Unis pour réformer la police, la Maison-Blanche a annoncé hier être en train de finaliser ses propositions tout en précisant qu'une baisse de l'immunité des membres des forces de l'ordre telle qu'elle apparaît dans la proposition de loi présentée cette semaine par les démocrates n'était pas envisagée. Dans leur projet concurrent censé être publié demain, les élus républicains envisageraient de mettre l'accent sur la collecte de données plutôt que sur des modifications de loi. Enfin, c'est encore dans ce contexte donc, on a appris hier que le géant du e-commerce Amazon, cédant aux pressions des partisans d'une réforme de la police et des groupes de défense des droits civiques, a décidé d'interdire temporairement aux forces de l'ordre d'utiliser sa technologie de reconnaissance faciale. Nombre de chercheurs critiquent en effet depuis longtemps ce système de surveillance dont ils estiment qu'il cible les personnes noires mais aussi les femmes et les jeunes de façon disproportionnée. Alors il se trouve que deux jours plus tôt déjà, la société IBM avait elle aussi annoncé suspendre la vente de logiciels de reconnaissance faciale à des fins d'identification, ou quand la pression de la rue comme des réseaux sociaux se fait désormais de plus en plus pressante donc sur les entreprises pour qu'elles cessent toute collaboration technologique avec la police américaine susceptible de favoriser la surveillance de masse et le profilage racial. Les explications de Maxime Tellier.
Face à la pression du moment, des associations et de ses propres employés, Amazon a donc décidé d'un moratoire d'un an qui suspend la vente d'un logiciel à la police américaine. En cause, un programme qui s'appelle Recognition. Nicolas Mazzucchi est spécialiste des questions cyber à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Ce logiciel, en fait, donc il y a le Recognition d'Amazon, mais en fait, qui n'est pas le seul sur le marché, hein, puisque une grande partie des entreprises technologie américaines, ce qu'on appelle les GAFAM, mais en fait, au-delà des GAFAM, fournissent également ce type de service. C'est un logiciel qui permet, en étant connecté à des bases de données qui sont détenues la plupart du temps par des acteurs publics, notamment la police, d'identifier au travers des caméras de surveillance le positionnement de telle ou telle personne, par exemple, pour identifier la localisation de criminels recherchés.
Mais voilà, la reconnaissance faciale est critiquée depuis des années par les associations de défense des libertés, par les employés en interne aussi. Cette technologie est forcément à un moment associée aux régimes dictatoriaux, la Chine notamment, avec des risques qui plus est éprouvés de biais ethnique, si elle est mal utilisée. Dans le contexte actuel, c'est évidemment insupportable, y compris en termes d'image auprès du public. Et Amazon, comme IBM lundi ou d'autres avant eux, se retirent du jeu. La balle est dans le camp du pouvoir politique désormais, avec une loi portée par les démocrates au Congrès qui veulent réformer la police.
On pourrait se dire, il y a une vraie possibilité, il y a une vraie ouverture. Et je pense que là, les États-Unis, quelque part, avec tout ce qui se passe en ce moment, justement, sont mûrs pour avoir véritablement une législation numérique qui soit plus protectrice de la vie privée des citoyens, ce qui aujourd'hui est finalement relativement peu le cas.
Et Amazon donne un an à la police américaine pour trouver des règles éthiques afin d'encadrer cette technologie.
Toujours aux États-Unis, la réserve fédérale a promis hier de continuer à soutenir l'économie pendant plusieurs années après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, qui devrait se solder par une chute du produit intérieur brut de 6,5% en 2020 et porter le taux de chômage outre-Atlantique en fin d'année à plus de 9%. Et puis, comme attendu, les sombres perspectives économiques tracées par la Fed coupant l'appétit des investisseurs, eh bien, les principales bourses européennes ont toutes ouvert en forte baisse ce matin, dans le sillage d'ailleurs des marchés asiatiques. 12h48 sur France Culture, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction. Aujourd'hui, Stanislas Guérini, chef du parti présidentiel LREM. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Pierre Neveu. Une première question, monsieur Guérini. Nous évoquions en début de ce journal la rencontre, donc aujourd'hui et demain, entre Christophe Castaner et les syndicats de police pour tenter de calmer leur colère, en particulier après ces déclarations de lundi sur les violences policières. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est encore l'homme de la situation ?
Oui, sans aucun doute. Le ministre de l'Intérieur a eu maintes fois l'occasion de dire l'absolu respect qu'il y a dans notre pays de ce gouvernement, de cette majorité pour nos forces de l'ordre qui, cette dernière année, ces derniers mois, ont été mis durement à l'épreuve et ont été infiniment vaillantes, respectables par rapport aux grands enjeux qui étaient devant elles. Mais parce que nous sommes exigeants, parce que nous sommes respectueux, nous sommes exigeants. Il faut une police aujourd'hui irréprochable. Il faut entendre la voix de notre jeunesse qui a manifesté récemment. Je crois que Christophe Castaner est évidemment l'homme de la situation pour cela.
Il aura aussi
Guérini.
Oui, non, pardon, je précise qu'il aura aussi maintes fois eu l'occasion d'être mis en difficulté tout de même. On se souvient notamment de la longue séquence des Gilets jaunes.
Bien, regardez à quel point nos forces de l'ordre, dans cette séquence difficile, ces samedis qui se répétaient les uns après les autres, où ils devaient faire face à des violences, ont tenu. C'est notre République qui tient aussi debout avec nos forces de l'ordre. Et Christophe Castaner, pendant toute cette période, a été sur le pont. Il a été le premier flic de France. Je crois que il faut savoir aussi le reconnaître et le respecter.
Question de Pierre Neveu.
Stanislas Guérini, le président de la République va s'adresser aux Français dimanche soir. Question, est-il dans le bon tempo? On pourrait dire trop tard après ces mouvements de mobilisation de la jeunesse contre le racisme, la police, la violence. Trop tôt parce que l'acte 3 du quinquennat n'est pas encore écrit.
Vous savez, je crois que nous sommes en ce moment encore dans un temps d'urgence. L'épidémie n'est pas totalement terminée, même si la situation s'améliore. Et puis, il y a l'urgence économique et l'urgence sociale. Et je crois que c'est très important que le président de la République puisse donner du sens, donner une perspective à ce qui a été l'action de l'État pendant cette période. Et l'action de l'État a été là aussi exemplaire, à la fois pour faire en sorte que notre système sanitaire tienne debout pendant cette période, et puis faire en sorte que nos emplois, nos entreprises ne sombrent pas pendant la période difficile que nous avons connue. L'État a agi dans l'urgence pour venir en aide à des secteurs d'activité, faire en sorte qu'il n'y ait pas des pans entiers de notre économie qui sombrent. Et je crois que c'est très important que la parole du président de la République puisse mettre cela en perspective. C'est, à mon sens, le sens de cette intervention. Et puis peut-être aussi prendre date pour donner les perspectives pour l'après. Il y aura un temps de reconstruction après celui de l'urgence. C'est un temps qui devra démarrer à la rentrée. Je pense que il est important que le président de la République, là aussi, donne du sens et tire des perspectives.
Le contexte est compliqué en ce moment pour le chef de l'État. Il baisse dans les sondages alors que le chef du gouvernement sort renforcé de cette période de la Covid-19. C'est une inversion des courbes qui est préoccupante, selon vous ?
Non, c'est moi absolument pas quelque chose que je regarde aujourd'hui. Ce que je regarde, c'est est-ce que ce gouvernement, est-ce que l'État a été à la hauteur pendant cette période ? Je crois que la réponse est oui, et bon nombre de nos concitoyens le reconnaissent, les chefs d'entreprise, de TPE, de PME, les artisans, les commerçants, ceux qui ont bénéficié du chômage partiel, ceux qui ont bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité. C'est ça la question qui est importante. Et je crois que c'est la seule obsession du chef de l'État aujourd'hui, de savoir si dans un premier temps notre pays a eu cette capacité à tenir debout et si nous serons capables demain collectivement dans la concorde d'entrer dans ce temps de reconstruction, parce que les défis qui sont devant nous sont immenses pour notre pays et pour notre continent. Et moi, ce que je vois, c'est un président de la République qui, au plan national, au plan européen, est depuis le premier jour de cette crise dans l'action, obsédé par l'intérêt général de notre pays. C'est la seule courbe, d'une certaine façon, qui m'intéresse, c'est celle de l'emploi. C'est celle de la croissance pour savoir si on arrivera à faire repartir l'économie. Ça a été pendant un temps la courbe d'entrée en réanimation. Et je crois que là aussi, ce gouvernement était à la hauteur. C'est ça qui compte.
Stanislas Guérini, les municipales, c'est dans un peu plus de deux semaines maintenant, le second tour. Des alliances LREM se sont nouées avec des candidats Les Républicains à Bordeaux, à Strasbourg, à Clermont, à Tours. Est-ce que vous ne perdez pas votre ADN en fusionnant ainsi avec des listes de droite parce que vous pouvez être identifié maintenant comme un parti de droite ?
D'abord, je ne crois pas parce que nous avons toujours eu une position très claire dans ces élections municipales qui sont des élections locales, de faire avec des maires quand ils avaient fait du bon boulot, qu'ils viennent de la gauche ou qu'ils viennent de la droite. Et je pourrais vous citer des exemples des deux côtés s'ils sont dans une position constructive avec notre majorité, s'ils sont prêts à travailler demain avec le gouvernement et surtout s'ils portent un projet ambitieux pour leur ville. Et donc c'est ce que nous avons fait depuis le premier jour. Alors pendant cet entre-deux tours, nous avons continué, c'est le jeu des élections locales, à pouvoir, quand nos listes n'étaient pas en position de gagner au second tour, faire des rassemblements avec des maires, là aussi issus de la gauche et issus de la droite. Il y en a certains que le mouvement que je dirige a approuvé, parce que je considère que s'allier avec les amis d'Alain Juppé, avec les amis de Fabienne Keller à Strasbourg, avec des gens avec qui nous avons fait campagne aux élections européennes, eh bien, cela avait du sens quand c'était fait dans l'intérêt des villes. Et puis, parfois, je considère effectivement
à Paris, par exemple,
qu'il y a des alliances.
Ça n'était pas possible.
Oui, que je ne souhaitais pas faire par cohérence politique. Parce que je considère que autant il est raisonnable, possible de travailler avec des élus venant de la gauche ou venant de la droite, je le répète, qui souhaitent s'inscrire dans nos idées progressistes, qui souhaitent travailler avec cette majorité, autant une droite qui est une droite beaucoup plus conservatrice, parfois souverainiste, eh bien, je considère que ce n'est pas la cohérence politique que de travailler avec cette droite-là. Et donc, c'est ainsi que nous avons navigué dans cette élection municipale.
Et on terminera par ces mots. Merci. Merci. Chef du parti présidentiel, je le rappelle. Merci également à vous, Pierre Neveu, ainsi qu'à Alexandre Abergel pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi pluvieux sur la façade atlantique. Le Finistère et le Morbihan ont été placés en vigilance orange. Des averses localement orageuses sont également attendues sur le nord-est, mais également les Alpes et la Corse. Partout ailleurs, le temps sera généralement plus sec, mais couvert. Quant aux températures, en dessous des normales saisonnières, elles afficheront entre 14 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.